Retrouvez votre magazine Parlons Ruralité, un magazine proche de vous. Un magazine qui vous présente les différentes initiatives en milieu rural. Un magazine qui vous informe sur le développement de votre territoire. C'est sur Radio Alpes-Mancelles, sur le 106.3 FM, www.ram72.net. Rencontre sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles avec Monsieur Thierry Kozik, élu en septembre 2020. Bonjour Monsieur Thierry Kozik.
Bonjour.
Alors qu'est-ce que le Sénat ?
Qu'est-ce que le Sénat ? C'est l'une des chambres parlementaires de la République. Donc avec l'Assemblée nationale, il y a l'Assemblée nationale et il y a le Sénat, dans lequel siègent 348 sénateurs, dont le travail est quasiment de faire la loi principalement, mais aussi de contrôler l'action du gouvernement.
Alors si on définit le rôle du Sénat, si on compare le rôle du sénateur par rapport aux députés.
Alors en fait, le Sénat est ce qu'on appelle la Chambre haute, mais aussi la Chambre des territoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Sénat porte toutes les réflexions autour des collectivités territoriales que sont les communes, les intercommunalités, les départements et les régions.
Vous êtes élu par quelle personne du territoire ?
Alors, c'est un scrutin dit indirect. En fait, ce sont les élus qui élisent leurs trois sénateurs. Donc, pour la Sarthe, trois sénateurs, moi-même, Louis-Jean de Nicolaï et Jean-Pierre Vogel. Et donc, on est élu par un collège de grands électeurs en Sarthe qui représente à peu près 1600 grands électeurs, dont le nombre est déterminé en fonction de l'importance du conseil municipal. C'est le nombre de conseillers municipaux dans chaque conseil municipal qui détermine le nombre de grands électeurs.
Je suppose que, bien entendu, il y a plusieurs listes qui se présentent et donc...
On est dans un département où il y a trois sénateurs. Mm-hmm. Donc, on est sur un scrutin à la proportionnelle. La dernière élection, donc en septembre 2020, il y avait 8 listes. Et en fait, après, c'est une représentation proportionnelle à la plus forte moyenne de mémoire, dans lequel, en fonction du score obtenu, on obtient un certain nombre de sièges.
Alors, en ce qui vous concerne, vous êtes à votre premier mandat, alors peut-être un peu moins connu sur le département de la Sarthe. Alors, est-ce qu'on peut dire qui est Thierry Cozic ?
Thierry Cozic est un Sartois. Ouais, je suis né au Mans il y a un demi-siècle, voilà, depuis un demi-siècle et un mois. Pour rien vous cacher, je suis manceau, j'ai un engagement politique marqué, voilà, au Parti Socialiste. C'est un choix que j'ai fait après un parcours associatif. J'ai eu la volonté personnelle de m'engager dans l'action politique. Ça a pris du temps parce que j'ai toujours considéré que avant de faire de la politique, il faut aussi assurer une partie, et notamment une carrière professionnelle, ce que j'ai fait. Et donc après, j'ai eu des engagements. Et avant d'être sénateur, j'étais maire d'Arnage depuis 2014.
Et pourquoi avoir souhaité justement postuler pour cette mandature de sénateur ?
Alors écoutez, je suis quelqu'un qui est passionné par l'action politique. C'est vrai que le fait de devenir parlementaire m'intéressait, avoir des responsabilités nationales. Il se trouve qu'il y a eu une opportunité. J'ai été réélu maire d'Arnage en mars 2020. Je conduisais une liste, nous avons gagné. J'avais pas de plan de carrière. Je considère qu'en politique, on ne doit pas avoir de plan de carrière. Il faut plutôt saisir les opportunités quand elles arrivent. Et donc en fait, l'occasion s'est présentée en juin 2020, on m'a sollicité en me disant que j'avais un profil qui pourrait convenir pour mener une liste au sénatorial. Donc je me suis interrogé, j'ai interrogé ma famille, parce que cette décision aussi, elle ne doit pas se prendre seule, elle doit se prendre en famille, et puis j'ai décidé de me lancer, voilà, avec un certain nombre d'élus qui m'accompagnaient.
Vous n'avez pas peur, en étant sénateur, donc de maire, de passer sénateur, de couper le lien avec tous les gens du territoire, de la base ?
Écoutez, alors je suis quelqu'un qui a toujours considéré que l'action politique, ça ne servait pas à une ambition personnelle, mais elle était au service de l'intérêt général, et au service de nos concitoyens, et plus prosaïquement pour sénateur, au service des élus. Le travail que je mène aujourd'hui, il est à la fois au Sénat, voilà, où on vote la loi, mais il est aussi sur le terrain, et c'est aussi l'objet de mon passage dans votre territoire, à la rencontre des maires. J'ai pris le temps de rencontrer chacun des maires de la communauté de communes, là, sur 5 journées.
Vous avez dit tout à l'heure, donc, vous avez interrogé votre famille. Alors, justement, comment s'organise l'emploi du temps d'un sénateur ?
Alors, l'emploi du temps d'un sénateur est assez simple. On passe 3 jours sur Paris, du mardi au jeudi. L'activité sénatoriale, à proprement dite, au Sénat, a été regroupée sur 3 jours. Donc, mardi, mercredi, jeudi. Et le reste du temps, c'est dans le territoire. Et moi, dans le territoire, c'est la Sarthe.
Et quels sont les moyens dont vous disposez pour remplir vos missions ?
Alors les moyens, aujourd'hui, on a, si je me place du point de vue du Sénat, je dispose d'un bureau, mais j'ai aussi des collaborateurs. Donc j'ai 3 collaborateurs parlementaires, deux en Sarthe et un à Paris, qui m'accompagnent dans cette mission. Voilà. Et puis j'ai aussi du personnel du Sénat. Un personnel compétent, voilà, qui est formé, qui est aussi présent sur le Sénat et qu'on peut également mobiliser.
Quand vous dites compétents, ils sortaient des grandes écoles, des choses comme
oui,
ça.
Oui, alors c'est des, il y a des concours.
Par rapport à vos ceux qui sont sur la Sarthe, ceux qui sont à Paris.
Alors sur le.
Quelle différence il y a?
Très honnêtement, moi, le choix que j'ai fait, il n'y a pas de différence, puisqu'en Sarthe, j'ai pris en général, on va plutôt prendre le cas général. On a sur Paris, on prend plutôt des profils juridiques. Et en circonscription, des profils pour accompagner le sénateur dans la relation avec les élus. Moi, le choix que j'ai fait, c'est d'avoir deux profils juridiques. Un profil juridique en Sarthe avec une vraie compétence de connaissance du réseau d'élus locaux sartois. Et sur Paris, plutôt quelqu'un qui a un profil juridique.
Et c'est indiscret de savoir leur nom ?
Ah non, absolument pas. Donc
parce qu'il faut les mettre en valeur également.
À Paris, c'est Rémi Fortanet. En Sarthe, c'est Tatiana Dupont, qui a été pendant 13 ans directrice de l'Association des maires de la Sarthe. Et Lauriane Coué, qui est chargée de communication.
Vous avez donc rencontré les élus du Nord-Sarthe, et notamment les élus de notre territoire Haute-Sarthe-Alpes-Mancelles. Alors, quels sont les objectifs de cette rencontre sur le terrain ?
Alors, en fait, c'est contrairement aux députés, un sénateur, il a un territoire qui est beaucoup plus grand, une circonscription qui est beaucoup plus grande, puisque c'est la Sarthe, c'est le département de la Sarthe, 354 communes. Donc il faut aussi, c'est important de porter des réflexions. Et donc j'ai initié ça il y a depuis le début du mandat. Régulièrement, je prends le temps d'aller à la rencontre des élus. Alors je le fais par périmètre d'intercommunalité, ce qui me permet comme ça de prendre un temps d'échange spécifique d'une heure. S'il y a besoin, c'est aussi l'engagement que j'ai pris, je suis prêt à revenir sur des problèmes plus profonds, mais ça permet... Il y a un double objectif. Le premier, moi, ça me permet, un, d'échanger sur la vie communale, comment le maire et son équipe municipale vivent leur mandat, parce que je crois qu'on a du mal à bien mesurer, mais c'est des mandats qui isolent. Souvent, on est tout seul. Moi, j'ai cette expérience de maire, et quand l'exercice solitaire du pouvoir, il existe. Et donc, je crois que c'est aussi important de pouvoir échanger un moment ou un autre dans un cadre plus restreint, avec quelqu'un qui mesure aussi ce que vous vivez. Donc ça permet comme ça d'échanger sur ces thématiques. Il y a des questions qui m'intéressent, notamment autour de la gouvernance des intercommunalités. Donc c'est vrai que c'est un sujet qu'on évoque. Un sujet qui revient très souvent, c'est les financements. Comment on peut porter l'accompagnement d'un parlementaire dans le financement des projets communaux. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de réserve parlementaire depuis 2017, mais on a aussi une connaissance, on peut aussi mobiliser des ressources, donc des ressources, plutôt des contacts, des ressources institutionnelles, et donc on est à côté pour les accompagner dans les financements.
Vous les orientez vers un organisme.
C'est ça,
voilà.
C'est ça.
Alors donc le rôle par rapport à un député, un sénateur, c'est côté les maires, on va dire ça comme
c'est,
ça.
C'est ça.
Alors que le député est plus...
Alors c'est aussi la particularité du Sénat, qui est d'ailleurs une institution qui est très peu connue, puisqu'elle est... En fait, on est élu par des élus. C'est vrai que c'est pas directement nos concitoyens, donc moi, mon quotidien, c'est de rencontrer des élus et de les accompagner dans leur mandat.
Et d'après vous, qu'est-ce que peut faire une petite radio comme Radio Alpes-Mancelles auprès d'un sénateur, voire un député ?
L'accueillir, ce que vous faites, fort bien aujourd'hui. Moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le Sénat, alors c'est un peu moins vrai depuis quelques années, a quand même eu une mauvaise publicité au niveau national, parce que c'est une institution qui est peu connue de nos concitoyens, puisque de toute façon, il n'y a pas d'élection directe. Donc c'est aussi ça. C'est relayer l'action des sénateurs. On fait la loi, on contrôle l'action du gouvernement, mais aussi on est à l'écoute des territoires et je crois que c'est important qu'une réunion...
Et je pense que la TNT a permis de développer ce petit problème, car c'est vrai qu'il y a une ou deux chaînes qui sont régulièrement au Sénat. Et c'est vrai que moi, personnellement, je trouve que c'est bien, parce que de temps en temps, je jette un petit œil, mais ce que je regrette un peu, c'est de me rendre compte qu'il y a beaucoup de sièges de vide. Pourquoi ?
Alors, c'est une très très bonne question, parce qu'on a le sentiment, quand on regarde, hormis les questions d'actualité au gouvernement qui se tiennent le mercredi après-midi, où là... En général, il y a l'ensemble des sénateurs, parce que c'est obligatoire, c'est une première donnée, mais c'est pas l'unique, c'est surtout que ce temps est banalisé pour que l'ensemble des sénateurs siègent en séance. Pourquoi quand on regarde une séance le soir, par exemple, il y a un certain nombre de sièges vides ? C'est parce qu'en fait, le travail de parlementaire, il se fait dans l'hémicycle pour voter des lois, mais il se fait aussi en commission. Et il y a d'autres temps spécifiques. Il n'y a pas de temps banalisé pour voter les lois. Ça veut dire que ça se fait en simultané. Par exemple, au titre du contrôle de l'action du gouvernement, moi, je suis membre de la commission des finances du Sénat. J'ai lancé cette année un contrôle budgétaire sur un sujet technique qui s'appelle les fonds de garantie de BPI France, de la Banque publique d'investissement. Voilà, donc, et ça veut dire que j'ai des temps dans la semaine dans lequel je mène un certain nombre d'auditions, je rencontre, je me déplace sur le terrain. Si vous regardez au moment où je suis en audition la séance, effectivement, je ne serai pas à ma place. Et je crois que c'est ça. C'est en fait, il y a un travail qui se fait en simultané de vote de la loi, mais aussi du travail de fond. Et les sénateurs que vous voyez en séance sont souvent ceux qui sont concernés, ceux qui sont membres des commissions concernées au fond. Voilà, clairement. Par exemple, si on évoque le sujet projet de loi de finances, vous pouvez regarder, l'ensemble des sénateurs qui siègent dans la commission des finances sont présents en séance à ce moment.
Tout à fait. Et donc, ça serait bien, en fin de compte, que les télévisions fassent voir d'un côté les sénats et de l'autre côté les commissions pour que la population se rende compte de ce que font nos sénateurs. Car puisque vous nous avez dit que vous occupiez de la commission de finances, ça coûte combien d'avoir des sénateurs en France?
Alors aujourd'hui, le budget d'un sénateur, c'est 5 euros par Français à l'année.
D'accord.
Voilà, donc le budget du Sénat, on est à peu près 68 millions. Donc
d'accord.
Vous voyez, vous multipliez par 5, ça fait 340 millions d'euros.
D'accord.
Il y a 1100 fonctionnaires au Sénat. Alors ils ne sont pas mis à disposition, c'est des fonctionnaires du Sénat. Il y a
d'accord.
un concours du Sénat.
D'accord.
Qui est d'ailleurs l'un, qui a un concours extrêmement compliqué.
Mmh.
Voilà, il y a beaucoup de candidats pour peu de sièges. Alors c'est vrai que le Sénat, il y a l'institution Sénat, mais on a aussi la particularité, c'est qu'il y a le jardin du Luxembourg, le célèbre jardin du Luxembourg, qui a été classé plus beau jardin d'Europe, et je crois qu'il doit être troisième au monde d'ailleurs dans les jardins.
Il mérite
donc,
sa place.
Il mérite sa place,
ah, oui.
Il est très beau. C'est du personnel du Sénat qui l'entretient. Voilà.
D'accord.
Donc il y a des jardiniers. Et pareil, dans ce budget, il y a aussi, on est dans un palais, c'est le palais du Luxembourg, c'est un ancien château de Marie de Médicis. Ça vieillit et il faut l'entretenir. C'est du patrimoine et il y a aussi une part conséquente du budget qui est consacrée à l'entretien du patrimoine. Il y a un certain nombre de projets de réhabilitation du patrimoine du Sénat, donc qui est le palais du Luxembourg, mais il y a aussi un certain nombre d'immeubles sur Paris qui ont besoin de rénovation et ça prend une part assez conséquente du budget.
Personnellement, je trouve ça bien. Moi qui ai visité la chambre parlementaire des députés et la vôtre, il y a des gens, c'est sûr, mais c'est l'histoire du monument, c'est l'histoire du bâtiment.
Enfin, c'est important de sauvegarder l'histoire, mais c'est aussi une chambre importante. Le Sénat est une chambre importante qui a retrouvé ses lettres de noblesse, notamment après le conflit des Gilets jaunes. Très honnêtement, on considère aujourd'hui que la République a été sauvée par le Sénat au moment des Gilets jaunes, parce que les sénateurs, vous savez, sont la chambre des territoires, mais c'est aussi les maires qui ont permis aussi que les débats citoyens se tiennent, donc qui ont participé aussi à cette grande concorde nationale.
Il était une barque, Viola, il était une barque. Petit bateau de papier, vive la République. Petit bateau de papier, vive la liberté. Au pied d'une colline, Viola, au pied d'une colline, à Paris, à Marais, vive la République. À Paris, à Marais, vive la liberté. C'est un libre équipage, Viola, c'est un libre équipage, sans maître à le mener. Vive la République, sans maître à le mener. Vive la liberté. Mais des fous d'un autre âge, Viola, mais des fous d'un autre âge, les avaient condamnés. Vive la République, les avaient condamnés. Vive la liberté. De crier à l'outrage, Viola, de crier à l'outrage, par les armes à venger. Vive la République, par les armes à venger, vive la liberté. Ils ont tué l'équipage violent.
campagne en Provence, de Lille à Montpellier.
Vive la République, de Lille à Montpellier, vive la liberté. Équipage du bateau de papier, vive la République, du bateau de papier, vive la liberté. Faut-il un tel carnage, Viola, faut-il un tel carnage pour la France éveillée, vive la
Vous avez rencontré donc les différents élus du territoire. Est-ce que vous avez relevé certaines préoccupations? Ils vous ont interpellé sur des préoccupations qu'ils ont dans la période actuelle?
Oui, alors il y a toujours, quand même sur ce territoire, je dois le dire, mais c'est souvent le cas. J'ai le sentiment souvent que les médias ont une vision un peu tronquée. Je pense à un certain nombre d'articles qui ont pu sortir dans la presse régionale dernièrement. Moi, c'est pas ce que je ressens sur le territoire. Être élu aujourd'hui, c'est pas simple. C'est pas simple, d'autant plus après un confinement de 2 ans que tout le monde a subi. Il faut se remettre, c'est compliqué. Je le dis, sur ce territoire, et c'est aussi ce que je constate ailleurs, c'est qu'on a des élus qui sont ambitieux, qui portent des projets, qui ont vraiment envie de s'engager pour leurs concitoyens. Et c'est des missions qui sont compliquées, on le voit, il y a un certain nombre d'élus, malheureusement, qui sont agressés. Je le déplore. Mais dans l'ensemble, quand même, moi je suis très impressionné parce que c'est vraiment des gens qui sont investis pour leur territoire et qui aiment leur commune et qui font tout pour que leurs concitoyens y vivent bien.
Un jour, j'ai entendu à la télévision qu'une personnalité politique disait que comme on a séparé le cumul des mandats, et il trouvait que le cumul des mandats donnait plus de possibilité au maire de... On était maire, député-maire, donc on avait une certaine vision des choses quand on nous amenait un problème ou un projet de loi, des choses comme ça, par rapport à la vie normale.
Le non-cumul des mandats a été une bonne chose, clairement, parce qu'il y a eu un moment où je pense qu'on est allé trop loin. Mmh. Et quand on est député-maire, on pouvait être député, enfin, ou sénateur-maire, président de région, il y a un moment, voire président d'intercommunalité, puisque le cumul était possible, très honnêtement, faut être sérieux, pas possible de tout mener. Le non-cumul des mandats a permis aussi à une nouvelle génération d'élus de prendre place. Et je crois que ça a eu du bon. Après, je me rends compte, et je suis le premier à défendre le non-cumul des mandats, mais je me rends compte qu'il y a un risque. Il y a un risque, et notamment quand on est sénateur, par exemple, on ne peut pas être sénateur sec. Dire clairement, pouvoir garder un exécutif local sur des petites communes peut être pertinent dans un travail de parlementaire.
Mais alors, ce non-cumul, est-ce que ça peut permettre de voir un peu plus de jeunesse arriver dans les parlements?
J'en suis un parfait exemple. Je ne suis pas certain que s'il y avait eu... J'en suis très conscient. S'il n'y avait pas eu ce non-cumul des mandats, aujourd'hui, je ne serais pas là. En tant que sénateur, certainement en tant que maire d'Arnage, je serais là pour vous en parler. Mais en tant que sénateur, et tout, je ne sais pas, peut-être. Mais c'est ce que je vous disais. Ça a permis à une nouvelle génération d'élus aussi de porter des réflexions. Et ça aussi rajeunit la vie politique. Après, sur le Sénat, c'est moins vrai. Très honnêtement, il est compliqué de devenir sénateur si on n'a pas eu un mandat d'élu local en amont. Mm-hmm. Par contre, je vois bien quand même que sur les députés, et notamment sur les réflexions qui sont engagées, il y a un manque de connaissance du terrain. Je le dis. Et ça, par contre, c'est inquiétant. Et c'est pour ça que je me dis quand même que garder un petit cumul, alors après, c'est sur des exécutifs, c'est Jean-Claude Boulard qui menait la liste en 2014, avant moi, disait sur le non-cumul des mandats, vous verrez, au bout de 6 mois, les parlementaires ne sauront plus. C'est-à-dire le fait de ne plus mettre les mains dans le cambouis, vous verrez, rapidement, on ne saura plus. Et je me rends compte, pour le vivre, c'est vrai. Alors moi, j'ai gardé un mandat de conseiller municipal sur la commune d'Arnage, qui permet notamment de poursuivre les réflexions autour des budgets, autour des finances. Donc ça me permet de garder ce lien, mais il est quand même moins fort.
On vous remercie, Monsieur Thierry Cozic, en tout cas d'être passé par le studio de Radio Alpes-Mancelles. C'était un plaisir de vous rencontrer. On a eu l'occasion de vous rencontrer récemment donc au Palais du Luxembourg, et il nous paraissait normal de vous inviter au studio de Radio Alpes-Mancelles.
Merci.
Mais vous avez le droit de revenir.
Ah mais avec plaisir, avec plaisir.
Alors n'hésitez surtout pas.
J'ai pas découvert, parce que je connaissais cette région, mais là en plus on est au moment du printemps, il commence à faire beau. C'est vraiment là.
C'est la partie la plus belle de la Sarthe.
Pourtant, moi,
j'habite le sud.
Ouais. Après, je le dis pas trop, parce que quand je vais aller dans le sud, ça sera compliqué.
Oui,
je leur dirai la même chose.
Oui,
comme je vais dans chaque commune, c'est la plus belle commune de chaque du département.
Mais
merci
plaisir.
À vous.
Au revoir.
Au revoir.
À toi, qui viens d'ailleurs, vis au fond de ton nouveau village. Profite d'un ciel sans nuages. Pour vivre heureux, évite les clivages. Ici, ce qui nous unit, c'est le sens du mot partage.
Debout, enfant de la ruralité, le grand jour est bien arrivé. Ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi.
Oui, mon ami, n'oublie jamais, au grand jamais, la grande histoire que racontent tous nos clochers. Les cloches de nos églises ont fait partir nos pères sur les chemins douloureux de ces grandes guerres. Mais elles ont toujours sonné avec passion, donnant leur voix le jour de nos libérations.
Debout, enfants de la ruralité, le grand jour est bien arrivé. Faisons tous ensemble entendre nos voix, avec la loi. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi.
Le vieux coq est toujours là pour te réveiller et t'annoncer une nouvelle belle journée. Canard, poulet, brebis, amis du quotidien, accompagnés des aboiements de tous nos chiens. Le chant des grenouilles et cigales nous accompagne. Voilà tout le charme de vivre à la campagne.
Debout, enfant de la ruralité, le grand jour est bien arrivé. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi.
Pour vivre en paix, il faut laisser juste à sa place la joie de vivre et partager le temps qui passe. Alors de grâce, ne fais pas un vilain procès à tous ces gens que tu croises tous les matins. Propose-leur plutôt de prendre un bon café, et de tous tes voisins, fais-en de bons copains.
Debout, enfant de la ruralité, le grand jour est bien arrivé. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que
avec la voix. Debout, enfant de la ruralité, le grand jour est bien arrivé. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi.